Bonjour. Aujourd'hui et demain, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN prendront des décisions pour préparer notre sommet en juillet, ici à Bruxelles. Ces décisions permettront à l'OTAN de continuer à s'adapter au 21e siècle, afin que nous puissions assurer la sécurité de notre population dans un monde où les défis se sont multipliés. Notre structure de commandement est l'épine dorsale de l'Alliance. Elle a évolué au fil des décennies pour refléter les conditions de sécurité changeantes. Et elle doit continuer à évoluer pour rester robuste, agile et parfaitement adaptée à son objectif. C'est pourquoi aujourd'hui, les ministres se mettront d'accord sur les grandes lignes d'une structure de commandement de l'OTAN adaptée. Avec de nouveaux commandements pour améliorer le mouvement des troupes entre les deux rives de l'Atlantique et en Europe. La mobilité militaire est la clé de notre dissuasion et de notre défense. Mais il ne s'agit pas seulement de nouveaux commandements. Nous devons également mettre à jour nos besoins militaires pour l'infrastructure civile, comme les routes, les chemins de fer et les aéroports. C'est vital pour l'OTAN. Les gouvernements nationaux, le secteur privé et l'Union européenne ont également des rôles clés à jouer, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Le cyber est une autre priorité pour l'OTAN qui sera intégrée dans notre structure de commandement mise à jour. Je m'attends à ce que les ministres décident des moyens d'intégrer le cyber dans toutes les activités de planification et toutes les opérations de l'OTAN, afin que nous puissions être aussi efficaces dans le cyberdomaine que dans les airs, sur terre et en mer. Ce soir, Mme Federica Mogherini, haute représentante pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne, nous rejoindra pour le dîner. Nous discuterons des menaces à la sécurité internationale, y compris la Corée du Nord. Il faut appliquer une pression pour trouver la voie de la paix. Il nous faudra une mise en œuvre complète et transparente des sanctions des Nations unies. La Russie et la Chine ont un rôle important à jouer à titre de pays voisins de la Corée du Nord et à titre de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est une menace mondiale qui exige une réaction mondiale. Demain, nous rencontrerons nos partenaires de Resolute Support pour faire le point sur notre mission en Afghanistan. La situation en matière de sécurité reste instable, mais les forces afghanes progressent et empêchent les talibans d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Les États-Unis déploient déjà plus de troupes et de nombreux autres alliés et partenaires prennent des engagements supplémentaires. Pour continuer à renforcer les forces afghanes afin qu'elles puissent combattre les terroristes internationaux et ouvrir la voie à une solution politique durable. Enfin, nous sommes impatients d'accueillir la réunion de la Coalition mondiale contre le IIL, présidée par le secrétaire Mattis. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Très bien, donc on va... La parole est à Sky, au centre, oui. La semaine dernière, le secrétaire à la défense du Royaume-Uni a été limogé il a été, encore une fois, un autre secrétaire a été rappelé au Royaume-Uni. Le secrétaire aux affaires extérieures a également été sur un terrain glissant en raison d'allégations qu'il a faites au Royaume-Uni. Et donc, avec le Brexit, est-ce que le Royaume-Uni est devenu un partenaire peu fiable sur la scène internationale maintenant? Le Royaume-Uni est un partenaire très fiable parce que le Royaume-Uni contribue à l'Alliance de nombreuses façons. Et je salue l'engagement indéfectible du Royaume-Uni envers l'OTAN et envers de nombreuses missions et opérations de l'OTAN. Il faut bien se rappeler que le Royaume-Uni dispose du deuxième budget militaire en défense, Donc, aucun autre pays, à part les États-Unis, n'investit davantage en défense que le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni dirige un des groupements tactiques que nous avons déployés dans la région baltique. Et il est chargé de la force de réaction rapide et il est présent en Afghanistan. Donc, j'accueillerai donc le nouveau secrétaire à la défense à la réunion d'aujourd'hui. Mais je tiendrai également une rencontre bilatérale avec lui demain. Donc, Monsieur Williamson, j'ai hâte de le rencontrer, de travailler avec lui et nous allons continuer à adapter l'alliance de concert avec le Royaume-Uni. Bonjour. Pourriez-vous nous donner encore une fois davantage de détails sur la raison pour laquelle la structure de commandement de l'OTAN devrait être élargie et quel serait le rôle de l'Allemagne dans ce contexte? La structure de commandement de l'OTAN, c'est l'épine dorsale de l'Alliance. La structure de commandement est ce qui nous permet de travailler ensemble, les 29 pays, pour déployer des forces et pour offrir une posture de dissuasion et de défense crédible en Europe. Mais pour faire cela, il nous faut une structure de commandement qui nous assure qu'on a les bonnes forces aux bons endroits, avec le bon équipement, au bon moment. Et par conséquent, il nous faut une structure de commandement pour organiser, pour diriger, pour faciliter le déploiement des forces de l'OTAN dans les missions et les opérations, mais également, évidemment, simplement parce que nous sommes présents en Europe et donc nous faisons de la dissuasion tous les jours. La structure de commandement doit être modifié lorsque l'environnement de sécurité évolue. Donc, lorsque le monde change, la structure de commandement doit changer également. Ça a déjà été le cas et c'est le cas maintenant. Nous avons, à la fin de la guerre froide, nous n'utilisions plus vraiment la structure de commandement parce que les tensions ont diminué et on s'est concentré surtout sur la défense collective en Europe. Et on est passé de la défense collective en Europe aux forces expéditionnaires, par exemple en Afghanistan, à l'extérieur de l'Europe. Et maintenant, nous devons pouvoir continuer à réaliser des missions expéditionnaires ou des missions d'aide et de formation, comme par exemple en Afghanistan, mais tout en renforçant notre présence en Europe pour assurer la défense collective. Par exemple, nous traitons de nouveaux domaines, comme par exemple le cyberdomaine. C'est la raison pour laquelle nous nous adaptons et nous nous concentrons sur des questions comme la mobilité militaire. Parce que pour nous assurer que nos forces peuvent se déployer, il nous faut un meilleur état de préparation, une meilleure réactivité, mais il nous faut également des infrastructures, il nous faut des moyens de communication, il nous faut des axes de communication maritime, en Atlantique, et donc toutes ces questions seront traitées par l'adaptation de la structure de commandement de l'OTAN. Bon, où exactement nous allons localiser le nouveau commandement, nous le déciderons plus tard. Nous avons une proposition de nos commandants stratégiques qui est basée sur un mandat qu'ils ont reçu au sommet de Varsovie en 2016, l'an dernier. Et j'espère que les ministres de la Défense pourront prendre une décision finale à la réunion de février sur les grandes lignes que nous agréerons aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, vous avez souligné le rôle exemplaire du Royaume-Uni dans l'Alliance, les responsabilités qu'il assume. Est-ce que vous partagez les préoccupations du commandant Hodges, le commandant américain, qui a dit à la BBC aujourd'hui que si le Royaume-Uni fait d'autres compressions dans ses dépenses de défense, il ne pourra plus assumer toutes ses responsabilités sur la scène mondiale. Le Royaume-Uni augmente ses dépenses militaires, ses dépenses de défense, parce que le Royaume-Uni dépense plus de 2% de son PIB en défense et le PIB augmente. Et donc, ce qu'on a vu au cours de la dernière année, c'est que les dépenses ont augmenté. Et je m'en félicite. Et je me félicite également du fait que le Royaume-Uni a atteint cet objectif de 2% du PIB dépensé en défense. Et ce qu'on voit également, c'est que le Royaume-Uni livre des capacités clés à l'OTAN. Il fait partie de notre mission en Afghanistan, mais également, il dirige le groupement tactique, un des groupements tactiques dans la région de la mer Baltique, et il fournit des forces également dans de nombreux autres dans de nombreuses autres configurations. Donc, la réalité, c'est que les dépenses de défense en Europe, partout en Europe, augmentent et de plus en plus de pays se joignent également au Royaume-Uni pour dépenser pour consacrer 2 % de leur PIB en défense. Et donc, le Royaume-Uni donc, a atteint cet objectif et d'autres alliés suivent leur exemple. Monsieur le secrétaire général, étant donné les attentats haineux et brutaux contre les civils en Afghanistan, comme vous l'avez vu, on attaque des mosquées, personne n'est épargné, on attaque des écoles, des restaurants, et il y a eu un attentat encore une fois hier qu'on a vu à la télé. Donc, c'est un message clair des talibans qu'ils n'épargneront personne et qu'ils ne sont pas d'accord avec le processus de réconciliation et de paix. Avec la stratégie américaine, quel est le message que l'OTAN souhaite envoyer aux talibans? Notre message, c'est que nous allons rester en Afghanistan pour former et aider et soutenir les forces afghanes pour qu'elles puissent combattre les talibans et qu'elles puissent combattre les organisations terroristes et stabiliser leur propre pays. Nous avons vu beaucoup d'avancées. Il y a de nombreux défis, évidemment. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais nous avons en même temps constaté que les forces afghanes deviennent de plus en plus compétentes, se professionnalisent et se renforcent. Et elles sont davantage capables de réagir aux attentats terroristes, aux attentats des talibans. On a vu que les talibans n'ont pas réussi à atteindre leurs principaux objectifs stratégiques, c'est-à-dire de contrôler les capitales provinciales. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a plus d'attentats contre les civils, c'est parce que les talibans n'ont pas réussi à prendre le contrôle des principales capitales provinciales. Et donc, notre message, c'est que nous allons continuer à apporter notre soutien aux forces afghanes avec de la formation, de l'aide et des avis, des conseils, mais également avec du financement. Nous ne reviendrons pas à une mission de combat. Nous croyons fermement qu'à long terme, c'est une meilleure solution que les forces afghanes soient responsables de la sécurité de leur propre pays et que nous apportions un soutien à ces forces. Mais nous renforçons notre soutien, nous augmentons le nombre de formateurs OTAN en Afghanistan, qui va passer d'environ 30 000, ou plutôt de 13 à 16 000 l'an prochain. Et je vais me concentrer en particulier sur la formation des forces d'opérations spéciales, l'amélioration de l'armée de l'air de l'Afghanistan et également sur l'école, l'éducation et les écoles militaires. Monsieur le secrétaire général, ce matin, le président Trump s'est adressé au Parlement, au Congrès américain, et il a évoqué l'emploi de la force militaire pour empêcher, pour arrêter Pyongyang. À votre avis, quelle serait la formulation, quelle serait la meilleure solution? Est-ce que ce serait l'usage de la force militaire ou est-ce que ce serait plutôt la diplomatie? Quelle serait la meilleure solution? Tous les membres de l'OTAN sont d'accord pour dire que nous devons appliquer une pression considérable sur la Corée du Nord parce que la Corée du Nord est responsable s'est comportée de façon irresponsable en mettant au point des armes nucléaires, en mettant au point également des missiles. Et nous devons appliquer de la pression sur la Corée du Nord pour en arriver à une solution négociée pacifique. La pression, donc, c'est le chemin vers la paix. Il nous faut donc des pressions politiques, des pressions diplomatiques, mais en particulier, il nous faut des pressions économiques. Il faut que toutes les sanctions économiques soient mises en œuvre. Et les sanctions économiques ont été renforcées par le Conseil de sécurité en septembre, et je m'en félicite. Et je me félicite également du fait que les sanctions sont maintenant mieux mise en œuvre qu'auparavant, mais il faut qu'elle soit entièrement mise en œuvre de façon transparente. La Russie et la Chine ont une responsabilité spéciale parce que la Russie et la Chine sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et elles sont également des pays limitrophes de la Corée du Nord. Donc, il nous faut une pression forte sur la Corée du Nord pour en arriver à une solution négociée pacifique. Et toute l'Alliance est d'accord sur cette stratégie. Monsieur le secrétaire général, un de vos débats aujourd'hui portera sur le secteur maritime et au-delà du nouveau commandement Est-ce que vous souhaitez que les Alliés contribuent davantage aux forces maritimes? Est-ce que c'est en partie parce que, en raison des activités maritimes accrues de la Russie en Méditerranée et en mer Noire autour de l'Ukraine? Et êtes-vous préoccupé par les réductions des marines des Alliés, par exemple la vente de frégates? Nous avons un processus de planification de défense très solide à l'OTAN par lequel nous identifions les différents objectifs capacitaires dont nous avons besoin et nous les répartissons entre les différents pays. Donc, nous avons des demandes précises ou des cibles également dans le secteur maritime, donc pour tous les membres de l'OTAN. Oui, il y a des besoins. Il faut augmenter les capacités maritimes en termes de navires, de sous-marins ou d'aéronefs qui peuvent patrouiller les mers. Donc, oui, il faut augmenter les capacités maritimes. Mais lorsqu'on va parler du nouveau commandement de forces interarmées, on ne parle pas seulement de l'augmentation du fait qu'on a besoin de nouvelles capacités, ça fait partie du processus de dépenses, mais comment on peut mieux organiser, comment on peut mieux diriger et planifier tout cela pour s'assurer qu'on a des axes de communication sûrs en Atlantique. Ça fait partie du développement des capacités, mais ça fait partie de notre travail, du travail que nous faisons ensemble, et dans quelle mesure les pays peuvent contribuer leurs capacités dans le cadre de l'OTAN et également contribuer aux exercices et à la planification. Donc, toutes ces questions sont maintenant sur la table et elles seront traitées dans le cadre du processus visant à adapter la structure de commandement de l'OTAN et en particulier le commandement atlantique. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je représente ONE TV en Afghanistan. Ma question a trait aux élections législatives qui se tiendront bientôt et l'élection présidentielle également. La sécurité est essentielle, est un facteur primordial. Le gouvernement afghan ne peut pas organiser des élections législatives à temps. Et donc, on s'inquiète de plus en plus dans la population que le gouvernement afghan ne pourra pas organiser la prochaine élection présidentielle en raison de problèmes de sécurité. Alors, j'ai deux questions. Quel est le message que vous envoyez au gouvernement afghan sur le plan politique et quelle serait la contribution de l'OTAN pour assurer la sécurité des prochaines élections en Afghanistan? Merci. Nous insistons toujours sur l'importance des réformes politiques et sur le renforcement des institutions démocratiques en Afghanistan, la lutte contre la corruption. Il faut s'assurer que les institutions démocratiques fonctionnent comme elles le doivent. Par exemple, pour les élections, évidemment, constituent un élément fondamental de tout processus démocratique. Donc, les élections sont importantes et nous estimons qu'il est important que l'Afghanistan fasse tout ce qu'il peut pour tenir ces élections, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives. Pour ce faire, la sécurité est essentielle. Pour pouvoir tenir des élections, il faut le faire dans un environnement sûr. Ce que l'OTAN fait pour aider, pour qu'il soit possible d'organiser des élections dans un environnement sûr, c'est de former les forces afghanes. Nous ne sommes pas en Afghanistan pour combattre. Nous n'avons plus de mission de combat, mais nous sommes là pour aider les Afghans. Donc, la meilleure chose que nous pouvons faire pour aider à sécuriser le processus électoral, c'est de renforcer nos efforts pour former les forces de police et de sécurité afghanes pour s'assurer que les élections puissent se tenir dans un environnement sûr. Et c'est exactement ce que nous faisons. Et nous allons augmenter notre présence en Afghanistan pour former davantage d'agents de police. Merci.